garçon.
Oui, Charlie Nathan, parce qu'on rigole.
Ah, je ne rigole pas du tout.
C'est marrant.
Ah bon, c'est quoi?
Mais c'est Patrick Préjean, notre invité d'hier.
Ouais, on a fait un best-of de ses meilleures interventions.
C'est Tigrou.
C'est rigolo.
Mais oui.
C'est
Tigrou. Bon, attendez. C'est qui le patron ici?
Oh là là.
C'est qui le patron?
C'est toi.
C'est toi.
Donc voilà. Vous allez arrêter de me faire passer pour quelqu'un de directif.
Non. Ce serait une fausse image.
Et pour quelqu'un qui mettrait la réponse dans la question, c'est pas mon genre quand même.
On a senti qu'on devait répondre non.
Non mais arrêtez de dire tout le temps à tout bout de champ.
Mais c'est pas moi, c'est une de mes interviewées.
Oui. Il vous énerve de la housse?
Il m'énerve.
Pourquoi?
Il fait les réponses dans ses questions.
Voilà. Est-ce que c'est pas le problème général sur l'audiovisuel public?
Oui, c'est sûr.
Mais ça, le nombre de présentatrices qui foutent les réponses de leurs questions, c'est vraiment la plaie, n'est-ce pas, Charline? C'est la plaie.
Charline, n'est-ce pas, Charline?
Non, mais justement, il voulait dire que c'était pas vrai.
Vous n'êtes pas en train de me prendre pour une truffe, non?
Non. Là aussi, on a senti qu'il fallait répondre non, mais.
Parce qu'hier, quand j'ai voulu lancer le premier sujet,
tiens, c'est l'incompétence de l'Europe face au drame des réfugiés.
Il y a la réponse dans le titre maintenant. C'est pas dans la question. Vous avez été à l'école
sujet Brugier, de l'escroc Nicolas Sarkozy.
Chapeau, vous y mettez à deux pour vous foutre de moi.
Mais Charline,
je sens bien que je vais craquer.
Mais attends, il faut que tu te détendes, Charline.
Mais oui. Ah bon, mais comment?
Attends, j'ai dit, écoute ça.
Voilà, ça va mieux.
Allez, on te veut aucun match.
Ah, c'est que de l'humour. Hein. Vous
pouvez me le remettre.
Allez, on va un petit peu.
Ça va mieux. Bonjour la France Inter, nous sommes le mercredi 6 juin 2018 et ce matin, Nicolas Hulot a bénéficié d'une sortie autorisée pour venir dans la matinale. Nous ne sommes malheureusement pas parvenus à le faire évader, mais nous ne l'oublions pas. La pénurie d'eau guette nos villes en Bretagne. Les îles du Ponant ont beaucoup à nous apprendre pour changer nos comportements, même si certains touristes en visite sur ces îles font déjà très gaffe.
Pastis à l'hosto, pastis avec très peu d'eau.
Les jeunes Français diplômés qui souhaitent s'expatrier sont attirés par la Suisse, pays francophone, qualité de vie, salaire grassouillet et pratique pays frontalier en cas de repli le week-end.
Vous avez déjà vu des Suisses prendre une cuite et traîner toute la nuit dans les troquets?
Et j'ajouterai à ça qu'on n'a jamais vu un Suisse sourire.
La voile renoue avec les anciennes méthodes, le tour du monde au sextant, sans GPS, sans ordinateur. D'ailleurs, le 1er juillet, 19 skippers prennent le départ de la Golden Globe Race, une course à la route.
Arrêt à l'abordage, papa! Souquet les Artémuses!
Ça veut rien dire, souquet les Artémuses.
Pendant ce temps, lui, il console les femmes de marins, Alex Vizorek.
Oh, que c'est bien tourné. Bonjour Charline Balounaker. Et aujourd'hui, vous méritez donc une belle équipe à 17h20.
Comme chaque jour.
Celle dont la passion... Non, que quand vous êtes là, Pablo. Celle dont la passion de jeunesse est devenue son métier, écouter de la musique. Et c'est pour ça qu'elle ne vieillit pas avec ses goûts d'ado junkie. C'est vous, Mélanie Bauer, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, humour et dépression, l'histoire de ma vie, effectivement. Avec le deuxième album de l'américaine Caroline Rose.
Très bien, à 17h30, celui qui est retourné dans son biotope préféré, parce que, encore plus qu'ennuyer les Français, il aime ennuyer les représentants des Français, n'est-ce pas Guillaume Meurice?
Mais oui, je vais vous parler de la loi sur le logement qui est examinée en ce moment à l'Assemblée, et je suis donc allé voir les députés, et j'ai pigé pourquoi ils s'en foutaient du bonheur des gens.
On n'a pas le droit, en matière d'urbanisme, de logement, de faire le bonheur des gens malgré eux.
C'est parce que les gens n'en veulent pas du bonheur.
Et enfin, 17h40, celui qui parfois a des réponses sans même savoir quelle était la question. Principe. C'est vous, Pablo Mira, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour Mélanie. J'essaie d'avoir les jeunes. Aujourd'hui, je vais vous relayer le SOS d'un François de Rugy en détresse qui estime que les députés travaillent trop. Et je le ferai bien sûr accompagné par la musique de la liste de Schindler et des pleurs d'orphelins du Sahel pour vous tirer un maximum de larmes. A tout à l'heure, Alex.
Allez, par Jupiter, alimente une page Facebook de petites plaisanteries. Devenez notre ami virtuel. Et puis venez vous voir aussi en streaming sur franceinter.fr car notre invité a mis une jolie chemise blanche bien repassée.
C'est vrai.
Je me tourne vers celui qui va supporter notre équipage. Vous sillonnez le monde en bateau dès l'enfance avec vos parents. Vous suivez les pas de votre frère, Laurent, qui excelle dans la course à la voile et avec qui vous remportez notamment la Transat Jacques Vabre en 97. Vous chavirez sur la route du Rhum 2002. Vous êtes gravement blessé sur la Transat Jacques Vabre 2007, mais vous gagnez plein d'autres courses, donc c'est pas grave. Lassez des courses et des budgets à boucler, vous préférez lancer des défis d'aventurier, comme ce tour du monde en catamaran non habitable et sans GPS. où cette première reliait l'océan Pacifique à l'océan Atlantique par la passe Nord-Ouest, rendue accessible par la fonte des glaces l'été, et ainsi alerter l'opinion sur le réchauffement climatique. Oh, vous avez reconnu, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Un marin d'eau douce qui vient de la Suisse et qui s'appelle Yvan Bourgnon.
Oui, c'est Yvan Bourgnon.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue Yvan Bourgnon.
Bonjour.
Donc, mi-marin d'eau douce par votre père, mi-marin d'eau salée par votre mère française.
En fait, plutôt jurassien, hein. C'était des montagnards. Ah oui, hein. Mère moi, jurassienne et un père jurassien.
Et voilà, le projet que vous menez, on va en parler, c'est de vous attaquer à une montagne, celle qu'on appelle le septième continent en réalité, la montagne de plastique. En 2050, il y aura autant de plastique dans l'océan que de poissons. Et vous construisez actuellement le plus gros multicoque au monde, qui est un quadrimaran, capable de ramasser 100 tonnes de déchets plastiques avant de retourner au port, c'est ça ?
Beaucoup plus.
Beaucoup plus ? C'est combien ?
300 tonnes.
Ah, 300 tonnes. Ça s'appelle l'opération Sea Cleaner. Vous avez lancé une opération de crowdfunding, vous avez quelques mécènes, et vous allez donc lancer ce chantier, la construction de ce quadrimaran qui va aller à la rencontre du 7e continent de plastique. Et quoi ramasser ? Comment ça fonctionne ?
Alors en fait, le 7e continent, c'est pas ce que vous imaginez. C'est pas des grands déchets de plastique là qui circulent sur la mer. C'est vraiment des déchets qui sont déjà dégradés, qui sont des micro-particules de plastique et qui sont plus récupérables. Donc nous, on va plus s'attaquer à la pollution du passé parce qu'elle est trop dégradée. Elle se dégrade malheureusement assez vite, au bout de quelques mois ou quelques années. On va vraiment s'occuper des macro-déchets plastiques, la bouteille d'eau, le sac plastique, ce qu'on voit visuellement à l'œil. Et on va aller plutôt près des côtes pour ça. Dans une barrière de 0 à 50 000, à la sortie des grands fleuves, près des grandes villes, etc. Et il se trouve que la population va passer de 6 à 10 milliards d'habitants avec une population justement côtière. Donc c'est pour ça que la Fondation Ellen MacArthur est assez pessimiste sur les plastiques qui vont se déverser à la mer dans le futur. Et voilà, donc en se concentrant sur ces bandes côtières, on arrive à les ramasser avec ce manta de manière spectaculaire à peu près 600 mètres cubes de plastique par campagne.
Ah oui, donc c'est-à-dire qu'il y a 4 coques, et quoi, entre les coques, il y a comme un peigne ou fanon de baleine qui vient. Comment ça fonctionne? Voilà, comment vous les récupérez à bord?
Voilà, 4 coques, entre chaque coque, on a des tapis roulants en fait, et avec la vitesse du bateau, naturellement, les déchets vont se faire piéger par ces tapis roulants qui sont extrêmement larges. On peut faire remonter un frigo à l'intérieur du bateau.
Ah oui.
Et les déchets vont remonter littéralement dans le bateau. Et puis à l'intérieur, après, on a des opérateurs, des trieurs qui vont laisser repartir les déchets organiques dans la mer. Par contre, les déchets plastiques, eux, sont bien triés, séparés en deux parties. Les premiers déchets qui vont être recyclables seront compactés en balles de 1 mètre cube.
Sur le bateau.
Sur le bateau, voilà. Ça, c'est assez simple comme technologie. Et puis les déchets, par contre, qui sont trop détériorés par les UV, parce qu'ils sont trop mélangés, ils sont trop petits, etc. Eux, on va les mettre de côté pour les pyrolyses qu'on aura à bord. Donc, pour expliquer aux éditeurs ce que c'est qu'une pyrolyse, c'est tout simplement un four. On incinère nos plastiques non recyclables pour en fabriquer de l'énergie, pour fabriquer du gasoil. Ça tombe bien, on fait notre propre économie circulaire à bord. On a besoin d'énergie pour faire tourner notre bateau, notre usine, notre équipage. Et donc, ça nous permet de doubler finalement l'autonomie du bateau en recyclant nous-mêmes ces plastiques à bord.
Et donc, en entendant ça, le gouvernement s'est dit, on va tout de suite en acheter 4 parce que c'est la solution à tout. Et ils vous ont jeté l'argent.
J'ai pas eu de chèque de Nicolas, il m'a pas encore appelé.
Il a pas dû. Il était là ce matin et il n'en a pas parlé.
Il avait oublié le chéquier. Chez lui.
Vous m'avez expliqué qu'il est parti en Guyane faire un séjour.
On essaie de l'exfiltrer du gouvernement, on n'y arrive pas. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce projet, vous pouvez aller voir sur le site de Sea Cleaner, donc seacleaner.org. C'est une ONG et il est possible d'aider si vous êtes un mécène et que vous avez envie d'aider. Parce que c'est extrêmement concret, vous l'avez entendu dans la voix d'Yvan Bourgnon. N'hésitez pas, seacleaner.org.
Une entreprise qui pollue peut éventuellement...
Tout le monde contribue en fait. Et les donateurs privés compris, on a 7500 donateurs, 30 mécènes, donc c'est vraiment tout. On est tous concernés et chacun peut participer. Et c'est comme ça qu'on financera en tout cas le premier bateau, qui est déjà financé à 25%. au bout d'un an, ce qui est déjà remarquable. Ouais. Donc, il nous reste 3 ans pour réussir le financement.
Allez, c'est parti. Donc, seacleaner.org, l'ONG avec Yvan Bourgnon. Et puis, nous parlerons tout à l'heure, Yvan, de votre ouvrage « Conquérant des glaces », paru chez Artaud. Si vous voulez voyager avec Yvan Bourgnon de l'Alaska au Groenland, à la voile en solitaire, mais depuis votre canapé, simplement en lisant Yvan Bourgnon, c'est possible, on va en parler tout à l'heure. Le navigateur et aventurier est avec nous jusqu'à 18h par Jupiter, en compagnie de Mélanie Boer et Pablo Mira.
Some dirt in your eyes. Here I go.
Bo Diddley sur France Inter, par Jupiter, où nous sommes en compagnie d'Yvan Bourgnon, navigateur, aventurier et écolo, qui est venu nous présenter à la fois son projet The Sea Cleaners, ce multicoque qui va récupérer le plastique et le recycler à bord. Tout, enfin, alors, zéro empreinte carbone, hein, que avec le vent, le soleil.
On sera jamais proche du zéro, ouais. Mais en tout cas, effectivement, au niveau de l'énergie qu'on va consommer à bord, on va utiliser que le solaire, le vent et puis le carburant qu'on fabrique, effectivement, avec nos pyrolyses qui transforment le plastique non recyclable en carburant. Donc on est relativement autonome. Pendant 2 mois, on peut partir en mer en autonomie complète.
Et pour entourer Yvan Bourgnon.
Déjà vous dire que sur le hashtag Par Jupiter, il y a quelqu'un qui dit punaise le charisme d'Yvan Bourgnon. Mais elle ne dit rien, cette personne, sur le charisme de Mélanie Boer, de Pablo Mira et de Guillaume Meurice.
C'est un sujet tabou.
Vous en
sujet
tabou.
Allez, voici le journal en duo, c'est la transat de l'info, sans assistance et sans escale.
The greatest jobs president that God ever created.
The journal of presque 17h17.
Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans.
I tell you that.
Et on commence par les titres.
Nous sommes le 6 juin et cela fait 74 ans que les Américains ont débarqué en Normandie.
Comme quoi, à une époque, les Français n'étaient pas trop mécontents de voir des étrangers arriver par bateau et s'échouer sur leur plage.
Interrogée sur les aides sociales, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a déclaré « Nous arrêtons de financer ce qui ne fonctionne pas ».
Ah, ça veut dire que Christophe Castaner va être privé de son salaire.
Des brèves ?
Ben oui, mais comme ça fonctionne, il y aura un max de financement pour les brèves.
On commence avec notre président.
Emmanuel Macron, en conférence de presse, a eu une réponse étonnante quand on lui a demandé de confirmer que son coup de fil avec Donald Trump fut houleux.
J'ai jamais raconté les coulisses. Parce que, comme le disait Bismarck, si on expliquait aux gens la recette de la saucisse, il n'est pas sûr qu'ils continueraient à en manger.
Et il connaît bien cette technique de la saucisse, car les gens, s'ils avaient vu les vrais ingrédients de la politique d'Emmanuel Macron, ils n'auraient jamais voté pour lui.
Notamment l'environnement.
L'environnement, tiens. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, est revenu sur la question du glyphosate.
En assurant qu'une loi serait votée dans 3 ans s'il n'y avait pas d'avancée d'ici là.
Ah, il est pas con, il est pas con. Moi aussi, je vais pas payer mes impôts cette année. Et si j'ai un contrôle, je dirais, allez, hein, ça passe pour cette fois-ci, mais promis, si dans 3 ans, je n'ai toujours pas payé, j'accepte le redressement.
Écologie toujours, Jacques. Un enfant de 7 ans a écrit au président de la République pour lui demander d'interdire tous les pesticides comme le glyphosate.
C'est mignon et sur Facebook, Emmanuel Macron lui a répondu et a affirmé qu'il s'engageait de supprimer le glyphosate dans les 3 ans.
C'est énorme.
C'est énorme. Un enfant de 7 ans a plus d'impact sur la politique environnementale que Nicolas Hulot. Et ça, c'est énorme.
La ministre de la Justice à présent, Nicole Belloubet, a annoncé qu'environ 450 détenus radicalisés sortiront de prison d'ici à 2019.
Voilà, alors la mauvaise nouvelle, c'est que ça va demander un suivi très précis. La bonne, c'est que ça libère des places pour Nicolas Sarkozy, notamment.
Passons à l'international. Oui. En Espagne, l'ancien chef du gouvernement Mariano Rajoy annonce quitter définitivement la politique.
Oui, il était très très inquiet de devoir affronter Manuel Valls aux élections espagnoles.
International, toujours.
Oui, au Guatemala, l'éruption d'un volcan a fait hier 75 morts et 192 disparus.
Oui, une information qui, on l'espère, n'est pas parvenue jusqu'à Valérie Maurice qui présentait la météo hier soir sur France 2.
Je voulais vous emmener aussi au Guatemala pour vous donner des nouvelles du volcan de feu. Vous savez qu'il est entré en éruption dimanche, ça a duré 16 heures, mais il a craché de la lave jusqu'à 2 km de haut, figurez-vous. C'était de la lave avec des cendres, avec du sable, c'était à 700 degrés, et puis tout ça avançait à 100 km/h, donc autant dire qu'il ne fallait pas traîner dans le secteur.
Quel judicieux conseil.
Sport. Il ne l'écoute pas assez.
Il l'écoute pas, surtout quand elle le dit après, évidemment.
Sport, le match amical entre Israël et l'Argentine qui devait avoir lieu à Jérusalem est annulé en raison de menaces contre Lionel Messi.
Pour une fois que le Messi devait revenir en Israël, paf, c'est foutu. Pas de bol.
Coupe du monde 2018. 9 joueurs mexicains ont été épinglés pour une orgie sexuelle.
Ah, Zaya a pris l'espagnol, on
non,
dirait.
Non, pire, attendez. 9 joueurs mexicains ont été épinglés par la presse de leur pays pour avoir fêté leur départ pour l'Europe en compagnie d'une trentaine de prostituées dans une orgie de 24 heures.
À 9, ils parviennent à tenir à la culotte 30 adversaires. Ils vont être redoutables, les Mexicains au mondial.
Allez, les brèves.
Oui, en l'espace de 18 mois, un Français gagne 2 fois le pactole d'€1 million du My Million, jeu complémentaire de l'Euro Million.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Chez les filles, on est choqués. Savoir qu'il y a moyen de gagner de l'argent sans rien faire en restant honnête, ça leur a troué le cul.
Et la dernière,
Lyon, suspendu à un balcon, un enfant de 18 mois est sauvé par un militaire de l'opération Sentinelle.
Oh, c'est super.
Mais c'est complètement con, le militaire, il était déjà français. Il pouvait le laisser pendre, ce gamin.
Merci Alex.
Mais de rien.
Yvan Bourgnon, en notre compagnie, nous allons aborder ce premier sujet avec vous. Sur les îles du Ponant, les habitants vivent depuis toujours en économisant l'eau pour leur survie. Mais l'été, dans les petites îles du Finistère et du Morbihan, la population est multipliée par 10. Et les touristes apportent avec eux les habitudes dispendieuses du continent. Alors comment on rationne l'or bleu sur les îles du Ponant ?
Ils avaient confiance, vous comprenez ? Parce qu'ils avaient hérité de leurs ancêtres cette vertu première indispensable aux plus nobles entreprises et qu'on a appelée depuis la pompomanie. Quand les parents pompent, les enfants trinquent, c'est bien connu. C'est même devenu de nos jours un axiome de base. Ce n'est qu'en pompant que vous arriverez à quelque chose. Et même si vous n'y arrivez pas, eh bien, ça vous aura pas fait de mal.
Les Shadocks, avec la voix de Claude Piéplu, bien sûr. C'est un article paru dans La Croix aujourd'hui sur les îles du Ponant. Et alors, il y a évidemment la question du réchauffement climatique, de la montée des eaux, de l'économie d'eau et puis de la population qui fait x10 pendant l'été. Alors, Yvan Bourgnon, la façon dont on économise l'eau et dont on la récupère aussi sur un bateau, est-ce que ça peut s'appliquer ? Il y a des méthodes qui peuvent s'appliquer à un territoire ? Qui sont communes, ou des réflexes, ou des mécanismes.
Bah, tout simplement, on prendrait nos chers touristes qui viennent sur l'île de Bréhat, on leur donnerait un dessalinisateur manuel, comme j'avais sur mon bateau pendant le tour du monde.
Un quoi ?
Un dessalinisateur manuel.
Ouais, ça marche avec une manivelle, comment
non,
ça marche ?
C'est un bras comme ça que tu actionnes.
Ah, oui.
Et puis, moi, je pense que ça les démotiverait un petit peu pour consommer sur place, parce qu'en gros, à chaque coup de pompe, tu vois une goutte passer. Hein, donc tu transformes une goutte d'eau de mer en une goutte d'eau douce.
Ah oui.
Donc en fait, pour fabriquer tes 3 litres d'eau, tu pompes à peu près 3-4 heures d'affilée. Donc je pense que chaque touriste, là, on devrait leur mettre des dessalinisateurs à disposition en disant, bon, vous voulez boire sur l'île, Allez-y, pompez
c'est,
un peu.
C'est
là,
comme
vous
ça
allez
qu'on
voir.
Comprend mieux, effectivement. Ouais. Dans votre ouvrage, Yvan Brugnon, quand vous racontez votre voyage de l'Alaska au Groenland à la voile en solitaire, Conquérant des glaces, livre paru chez Artaud, on comprend aussi que l'eau, vous la récupérez, c'est celle qui glisse aussi le long des voiles, c'est ça? Comment ça
tout
fonctionne?
Tout à fait. En fait, j'ai pas l'autonomie complète pour aller, notamment quand je traverse tout l'océan Indien, où il fait 40 degrés. Tu bois 5 litres d'eau par jour, donc 25 jours, impossible d'emmener toute cette quantité d'eau sur ce petit bateau. Donc la seule solution quand il pleut pas, c'est le dessalinisateur. Mais effectivement, sous les tropiques, là où il y avait de l'eau, j'avais une gouttière en fait en bas de la voile. J'attendais quelques minutes que l'eau s'écoule et évacue le sel de l'eau de mer. Puis après, tu mets ton petit jerrycan en bas de la gouttière, comme à la maison. Mm-hmm. Et là, tu as assez à boire pour tes transats. Ouais, non, c'est voilà.
Donc ça, c'est les deux mécanismes principaux. Finalement, c'est la pompe qui fait tout, parce que l'eau qui arrive sur les voiles, ça, c'est de l'eau de pluie, mais elle est un peu salée ou
ouais,
pas?
Oui, mais il suffit de la laisser rincer la voile d'abord.
Ouais.
Le principe, c'est qu'elle rince la voile pendant 2-3-4 minutes.
Ouais.
Puis après, elle est carrément buvable, elle est douce. Hein.
Je n'ai pas compris le sujet. C'est des Bretons qui veulent boire de l'eau.
C'est ça l'info.
Il faut reprendre les bonnes méthodes de Kersauzon.
Exactement.
Le premier tour du monde qu'il avait fait sur son bateau, il savait pas, mais il était super écolo en fait à l'époque, parce qu'il avait quand même embarqué 300 bouteilles de pinard dans ses cales pour la première course au tour du monde. Et c'était forcément des bouteilles en verre.
Ouais.
En fait, ils étaient super écolo, hein, sans le savoir.
Ouais, donc, ouais, voilà.
Et il les jetait pas par-dessus bord. Quoi.
Ah bah non, surtout pas. Hein. Du bon Bordeaux, je le gardais.
Il n'y a pas de contrôle en pleine mer. Hein,
voilà, et on salue nos auditeurs dans les îles du Ponant. Tiens. Ouais. Yvan Brugnon en notre compagnie et Mélanie Bauer.
Oui.
Parlons un peu musique.
Alors, pas besoin de naviguer pour avoir le mal de mer. Être ballotté par la vie, avoir la sensation d'évoluer en milieu hostile, de s'accrocher à des choix plus ou moins mauvais pour éviter la peur de passer par-dessus bord et finalement se noyer dans un flot d'émotions ingérables. Oui, c'est ma vie. Pour éviter le creux de la vague, il y a des bouées qui peuvent nous sauver, comme l'humour, l'autodérision et bien sûr l'action. Il faut sourire, rire, même si ce rire peut devenir jaune ou bien teinté de noir, grincer un peu. Voilà ce que j'ai trouvé dans le deuxième disque de la jeune New-Yorkaise Caroline Rose. Une traversée de la vie en solitaire, l'honneur, c'est le titre de son deuxième album. Le constat d'une oppression patriarcale pavée de petites misogynies ordinaires, de grossesses non désirées et de trahisons minables sur fond de surf music et de sarcasme. Le monde observé par la longue vue du deuxième degré. I'm cruising down the street. I like to keep a loser freak in the sheets. I got a credit card and I use it all the time. I got the Gucci, Gucci, Gooey, Uzi, Icky, Uzi style. I do a hair flip, I stop my stuff. You whispering at me, I can't hear you, I say what? I don't have a job, but I got a lot of time. Baby, show me yours and I'll maybe show you mine. Vous me direz tout ça, c'est aussi mature qu'un Guillaume Meurice, quoi. Cette naïveté effrontée qui regarde avec mépris une société méchante où l'argent est roi et l'humain esclave. Il faut grandir à un moment, trouver sa place, arrêter de subir et participer à la course du grand capital. Toute voile dehors en se fichant complètement des conséquences, c'est ça. Être adulte, assumer son individualisme et surtout, quand on est jeune, gay et américaine, il faut aimer l'argent. Aimer l'argent, ou pas, hein. On peut aussi refuser les courants contraires à nos idéaux. Caroline Rose se définit comme une riot girl, féministe et punk. Elle ne s'habille plus que de rouge, elle répète dans la presse qu'elle veut faire de la musique aussi folle qu'elle. Et des chansons inspirées du cinéma, on y retrouve le mordant des frères Cohen ou bien d'Almodovar sur fond de guitare à la Cramps. Je termine avec un des tubes de l'album Bikini, où dans le clip, elle se met en scène travestie avec une moustache, présentant un groupe de danseuses rondouillardes en bikini. Le message est simple, poupée, si tu veux la gloire, si tu veux l'argent, si tu veux la réussite, la seule chose que tu as à faire, c'est de porter ce petit bikini à méditer, n'est-ce pas Pablo?
put on this little bikini and dance. Put on this little bikini and
Caroline Rose, le choix de Mélanie Bauer. Et Caroline Rose passe par la France.
Oui, elle sera en concert le 6 juillet à Paris et le 7 aux Eurocéennes de Belfort. L'album s'appelle Loner et sort le 15 juin et c'est la meilleure dépression de l'année.
Merci Mélanie. C'est Yvan Bourgnon qui est en notre compagnie, le navigateur, l'aventurier. Et aussi, on peut dire, vous êtes le PDG, j'allais dire, le président de l'ONG Sea Cleaners.
Oui, président et fondateur.
Ah, voilà, président fondateur. Allez voir le site de Sea Cleaners. C'est donc ce multicoque, ce quadrimaran, dit-on, c'est ça ?
Bien vu.
Qui doit être opérationnel en 2021 et qui va ramasser le plastique dans les estuaires ou les côtes, en tout cas.
Sorti des grands fleuves, les grandes villes et tout. Sachant que, voilà, il ne faut pas penser qu'on a l'unique solution ultime. Ça passera par d'ultimes solutions. Il y a plein de solutions avec des barrières flottantes, ramasser les déchets sur les plages.
Arrêtez de consommer du plastique.
Voilà. Non, ça veut dire qu'on peut fermer les yeux. On peut continuer à balancer les bouteilles en plastique puisque vous êtes là, de toute façon, pour les ramasser.
On va vous mettre des sanctions.
Un projet très très concret en tout cas, le Sea Cleaners de Yvan Bourgnon. À côté de vous, il fait beaucoup pour la planète aussi. Ouais. Alors aujourd'hui...
Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi Élan. Alors, rien à voir avec l'animal, de la célèbre blague zoophile. C'est l'histoire d'un mec qui prend son élan. Voilà, l'occasion de vous rappeler qu'on a encore du retard sur les grosses têtes. Élan, c'est la loi logement. Et s'il y en a qui se font bien baiser en ce moment, c'est pas les élans ou les caribous. Ce sont les handicapés qui voient la part de logement accessible pour eux dans les nouvelles constructions passer de 100% à 10%, carrément. Pas de bras, pas de toit, pas de jambes, pas de chambre. Encore une bien belle blagounette de nos amis députés. Alors, évidemment, je suis allé à l'Assemblée ce matin pour parler de tout ça avec eux. Et j'ai commencé par monsieur Carrez, de la célèbre loi Carrez sur les logements. Bonjour. Bien connu, des escrocs, des agents immobiliers, pardon. Mais mélange à chaque fois dans les synonymes. Alors monsieur Carrez, lui, ça ne lui pose pas de problème que ça passe de 100% à 10%.
Il y a un équilibre à faire. Mais allez visiter certains nouveaux logements où vous avez des chambres qui font seulement 8 mètres carrés. Pour les enfants, tout ça, parce que vous aurez des toilettes immenses où on peut faire tourner un fauteuil roulant. Il ne faut pas être intégriste ni dans un sens, ni dans l'autre.
Voilà, et ça c'est important de le dire aux handicapés intégristes qui nous écoutent tous les jours, les fous du fauteuil, comme on les appelle, les mecs qui te font cramer un journal si tu fais une caricature de Michel Petrucciani. Ils sont tarés, ils sont complètement tarés. C'est les gens qui veulent continuer à être acceptés dans la société, n'importe quoi. Alors ça, c'était un député Les Républicains. Il n'est pas dans la majorité, mais ça leur arrive quand même pas mal de voter comme eux. Allons voir un député UDI. Ça existe encore, ouais, c'est une info. Et il fait partie des constructifs, donc il vote avec la majorité. C'est Philippe Vigier.
Franchement, il ne faut pas chercher une polémique là-dessus, il y a mieux à faire. Il n'y a jamais un immeuble où il y a 100% d'handicapés.
Ça veut dire aussi que quelqu'un qui est handicapé, qui veut aller rendre visite à quelqu'un qui est valide, ne pourra pas le faire.
Vous avez raison, mais vous m'accorderez que vous ne pouvez pas non plus confier. C'est normal.
Ça, je me fais taper par votre attaché de presse.
Vous êtes dans votre rôle, mais malheureusement, un handicapé ne peut pas avoir accès à tout.
Voilà, mais moi, je n'ai pas vocation à me faire taper par les attachés de presse quand je pose des questions qui ne plaisent pas.
C'est
parce
vrai
que, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, si je prends un coup de talon aiguille dans la nuque, je peux finir tétraplégique. Donc, il faut faire gaffe à ça. Alors, revenons à ma question. Si un handicapé veut rendre visite à un invalide.
J'aurais préféré qu'on s'indigne sur une chose. C'est que les entreprises préfèrent payer des pénalités plutôt que prendre des travailleurs handicapés. Parce que l'insertion par le boulot, c'est majeur.
Oui, mais ce n'est pas ma question.
Oui, mais moi, je réponds aussi. Vous faites les questions, je n'ai pas mes réponses.
Ah oui, mais si ça ne correspond pas à mon
sujet. Oui, mais je ne peux pas répondre uniquement ce que vous souhaitez entendre.
Non, bah, juste un truc qui soit en rapport avec ma question, bah, ça me va. Bah, moi, je dis c'est pour lui, sinon ça se voit qu'il est emmerdé. Alors, comme tous les députés, quand ils sont emmerdés, ils ont une sorte de botte secrète. Ils se passent le mot. Je ne sais pas qui leur a vendu ça, mais c'est une sorte de cape d'invisibilité. C'est comme la semaine dernière sur la loi alimentation. Ils disent mais non, mais on vote pas la loi. Puisque de toute façon, ça ne sera pas appliqué.
Vous pouvez voter 100% si ce n'est pas appliqué. Non.
Donc on ne vote pas des lois de peur qu'elles ne soient pas appliquées.
Pas du tout. On vote des lois raisonnables, c'est différent.
Ah.
Voter l'impossible, ça ne sert à rien. Les effets d'affichage, vous savez, les Français en ont marre, des politiques qui annoncent des décisions qui ne sont pas tenues. Ils préfèrent qu'on soit un peu plus modeste dans l'ambition, mais qu'on respecte le contenu de la loi qu'on a votée.
Ah non, je crois qu'ils préfèrent qu'on vote des lois ambitieuses et qu'on les respecte.
Oui, mais comme ce n'est pas souvent le cas, et donc vous dites comme moi.
Non, Philou, non, c'est bien essayé, mais on dit exactement l'inverse. On voyait qu'ils cherchaient une petite porte de sortie, mais malheureusement, il était handicapé par des éléments de langage à la con et la porte n'était pas accessible. Alors allons voir un vrai député La République en Marche cette fois-ci, Yves Blin. Est-ce qu'il est capable de répondre à ma question, donc, qui est cruciale, je vous rappelle, pour lutter contre l'isolement des personnes handicapées?
Non, je pense que ça fait partie des choses qui, à mon avis, restent tout à fait possibles.
Ah ben, si le logement n'est pas accessible aux handicapés, il ne pourra pas.
Le logement n'est pas accessible, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accéder au logement.
Voilà, alors je vous propose quand même de vous arrêter quand même un peu sur cette phrase. Un logement pas accessible ne voudra pas dire qu'il ne pourra pas accéder au logement. C'est vrai, mais s'il faut élitreuiller la personne pour la hisser et abattre trois cloisons à chaque fois qu'il va pisser, voilà, on va peut-être éviter de l'inviter à la prochaine paella, hein, notre ami handicapé. S'il faut faire venir Valérie Dabido à chaque fois pour refaire tout, c'est le bordel. Hein, donc voilà, ça répond pas donc à ma question.
Je ne sais pas répondre à votre question. Je pense que ça fait partie des choses qui ont très probablement été pensées.
Ben là, on n'a pas bien l'impression là.
Parce que enfin, je ne suis pas rentré dans l'intimité des gens. J'ai déjà eu l'occasion d'accueillir chez moi des personnes handicapées et pourtant mes toilettes ne sont pas réputées accessibles.
Vous avez des toilettes qui ne sont pas réputées accessibles?
Eh non, j'habite dans une maison des années 1900, donc voyez-vous.
Parce que vous habitez dans une grande maison.
C'est pas parce qu'elle est âgée qu'elle est grande.
Ah, combien de mètres carrés?
Des raccourcis. 110 mètres carrés, me semble-t-il.
Oh, c'est la petite bicoque. Ok, c'est vrai que ça doit pas être évident de circuler. J'imagine qu'ils vont chercher l'eau au puits, pieds nus dans la neige. On rigole, mais c'est terrible, là, ces conditions de vie. C'est comme à l'Assemblée où la vie est dure également pour les personnes handicapées.
Ah, je crois que si. Hein. Ce qui devait être fait, l'a été.
Par exemple, pour aller à la buvette, il y a des marches.
Ah, peut-être toutes les buvettes ne sont pas accessibles, c'est possible. Mais les plus stratégiques le sont.
Voilà, mais le problème, c'est que toutes les buvettes sont stratégiques à l'Assemblée. C'est là où les députés boivent pour oublier ce qu'ils votent avant et après. Nul doute que si l'indécence était un handicap, l'Assemblée serait à 100% adaptée.
Guillaume Meurice, merci.
Je vous en prie, à votre service.
17h41 sur France Inter. C'est Yvan Brognon qui nous accompagne pour la traversée jusqu'à 18h. On va aborder cet autre thème avec vous. Les jeunes Français qui viennent d'obtenir un diplôme rêvent de s'expatrier en Suisse. Oui, le journal Le Monde organise aujourd'hui un forum expat et la Suisse est le pays francophone d'Europe qui attire le plus les candidats français à l'expatriation. Bon, derrière donc la Belgique et le Luxembourg.
C'est ça, il n'y a pas
Il n'y a pas non plus, bien sûr, mais un salaire intéressant combiné à la qualité de vie et puis c'est la Suisse, hein, le rire aussi, évidemment.
Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'expérience. Reste encore à savoir pourquoi on rit. Un rire cynique qui vise à tourner une personne en dérision, ce n'est pas un bon rire, à mon avis. En revanche, rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur.
Le merveilleux Johann Schneider-Hamann, qui était président de la Confédération Suisse l'an dernier. C'est le président. Allocution officielle.
Et les premiers degrés, voilà.
Je pensais que c'était un personnage.
Il faisait une allocution sur la maladie en expliquant que le rire était important aussi. Mais attention, pas le rire aux dépens de quelqu'un. Voilà, pour notre invité franco-suisse, Yvan Brognon, ce sujet. Sur donc ces jeunes diplômés, donc le journal Le Monde consacre une page au fait qu'il y a quand même beaucoup de jeunes diplômés français qui choisissent la Suisse pour toutes les raisons qu'on connaît. Vous, Yvan Brognon, vous avez abandonné les études rapidement parce que l'appel du large. Mais que ces jeunes diplômés aient envie de travailler à l'étranger et qu'ils choisissent la Suisse, ça vous étonne ou pas plus que ça?
Ben, en fait, moi, je suis pas le bon exemple parce que j'ai fait exactement le contraire. Je suis le seul Suisse qui est venu s'exiler en France. Donc, j'ai mes impôts quand même que je paye en Suisse, mais ouais, je travaille en France. Donc, c'est le mauvais plan, en fait. Hein. C'est pas la bonne combinaison, mais effectivement, ouais, je comprends bien ce qui se passe là-bas.
Alors, en Suisse, l'article nous dit, bon, les Français veulent aller travailler en Suisse, mais attention, là-bas, on ne critique pas le patron, on ne contourne pas les règles et c'est difficile de faire grève. Vous, Yvan Brognon, vous êtes plus français, plus suisse?
Ouais, mais moi, je navigue, en fait. Hein. Je suis un bon navigateur pour ça.
Si vous critiquez le patron, c'est vous. Donc
J'essaie de trouver les avantages. Ouais. Non, l'administration suisse, c'est extraordinaire. Ça fonctionne comme une merveille. Ah, oui. Tu obtiens ton passeport en 30 secondes. Tout va très vite. Et franchement, pour ça, il faut les féliciter. C'est géré en bon père de famille, ce pays. Donc, en fait, il n'y a pas de dette. Si la médecine, ça coûte cher, eh bien, on fait payer la médecine. Tout est géré en bon père de famille, au franc le franc. Donc, cela, on ne peut pas leur reprocher. Il y a une bonne gestion. Après, c'est vrai qu'on a envie de leur dire détendez-vous un petit peu parfois. Ils ont besoin d'aller un petit peu plus loin, de se détendre et d'être un peu plus fun. Ouais. C'est pas toujours le cas.
Il y a des opportunités là-bas, par exemple, si pour votre projet de sea cleaner, votre multicoque qui va aller ramasser en mer le plastique, le recycler, etc., les mécènes, les financements, etc., vous tournez vers la Suisse parce que vous savez que il y a l'argent, puis aussi peut-être la conscience écologique et...
Nous, on se tourne vers le monde entier. Par contre, la Suisse est hyper précurseur sur la cause écologique. C'est vrai qu'ils, depuis 15 ans, ils sont vraiment actifs, ils ont vraiment plein de maisons autonomes, ils ont vraiment compris la difficulté. Alors, c'est vrai qu'ils ont une capacité financière pour se financer un peu plus facilement tous ces outils et toutes ces énergies renouvelables qui ont un coût. Mais en tout cas, ils en sont conscients. C'est vrai qu'ils sont pour ça très... Chaque Suisse est vraiment concerné par son petit geste, par son triage, par son recyclage. Ça, on peut pas leur enlever. Ils ont vraiment donné le bon exemple là-dessus. Il y a encore du boulot, mais évidemment, le lac Léman qui était très pollué il y a 15-20 ans, ils ont réussi vraiment à faire une action très très forte pour aller éviter que ces eaux continuent à être sales. Et ça bouge, donc c'est bien, c'est un bon exemple. En tout cas, c'est un bon exemple. Un bon exemple pour
et
la planète.
Rappelons aussi le recyclage de l'argent noir en argent blanchi. Oui. Aussi est assez efficace.
L'argent de nos sœurs propres, hein, donc c'est ça.
Tu le jettes dans le lac Léman, il est propre.
Yvan Brognon, entre notre compagnie. Non, vous regrettez pas d'être venu quand même.
Non, ça va, j'assume.
Si la Suisse sur la qualité de vie, chaque fois qu'on y va, on est bien, c'est calme.
Rappelons l'ONG quand même, Sea Cleaner d'Yvan Brognon, qui est quand même un projet extraordinaire et auquel vous pouvez contribuer si vous allez voir sur le site, bien sûr. La construction du bateau va commencer quand?
2020-2021, deux ans. Voilà, en France, construction française, il faut le dire, et fournisseurs européens. Donc, on a la chance dans ce pays d'avoir les meilleurs chantiers navals au monde. Ouais. Donc, sur un bateau hyper révolutionnaire avec toutes ces innovations technologiques, on est bien placé pour faire la première unité. Et après, évidemment, tous ces plans qui vont être disponibles, on reste bien en fondation chez Sea Cleaner pour pouvoir mettre à disposition de la communauté internationale tous ces plans pour que ça aille très vite. Voilà, c'est pas, il n'y aura pas de concurrence, c'est chaque pays pourra s'approprier ce projet et construire chacun son bateau et on peut voir 20 mantas fleurir en deux ans.
Le ministère de l'écologie, ça vous intéresse ou pas? Ce sera peut-être bientôt vacant.
Si Nicolas va pas faire un séjour en Guyane, moi je vais bien le rencontrer. Hein.
Effectivement. Allez, il est 17h46, l'heure de l'édito de Pablo Mira, éditorialiste et réalisateur d'un documentaire sur la souffrance au travail. Ouais. Un film intitulé « Quand Alex Vizorek vous souffle au visage un jour de pénurie de tic-tac ». Ouais. Pablo, vous revenez aujourd'hui sur le ras-le-bol des députés de l'Assemblée nationale.
Oui, Charline, d'après François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, les députés n'en peuvent plus parce qu'ils travaillent.
Ouais, et vous avez oublié votre texte ou que...
Ah non, c'était la fin de ma phrase, Charline. Les députés n'en peuvent plus parce qu'ils travaillent, tout simplement.
D'accord, très bien.
Alors, il faut dire aussi que c'est vrai que depuis des semaines, nos députés sont pris dans un véritable marathon parlementaire. Et c'est vrai que quand on regarde leur physique, il est évident qu'ils sont loin d'avoir l'endurance des Kenyans. Là, par exemple, les députés, ils viennent d'enchaîner, tenez-vous bien, 17 jours de siège d'affilée en travaillant jusqu'à 80 heures par semaine. Il bosse tellement que certains commençaient même à fabriquer des Nike en parlant mandarin. Et le pire, c'est que, à force de siéger à l'Assemblée, eh bien, ils n'ont même plus le temps d'aller dans leur circonscription, les députés. Et ça, c'est tragique, car c'est ce contact avec le terrain qui permet aux parlementaires de comprendre une chose essentielle. Bah, c'est qu'on est quand même mieux à l'Assemblée, quoi. Non, moi, je vous le dis, il faut aider les députés à lever le pied, parce que le gouvernement leur impose ce rythme infernal, et ce, constamment, Alex. Chaque semaine, un nouveau projet de loi à étudier, c'est épuisant. Il suffit de zapper sur la chaîne LCP pour constater le visage fatigué du siège vide de Manuel Valls. Mais en plus d'horaires inhumains, nos députés sont harcelés par les instances françaises sur leurs dépenses. Et c'est d'ailleurs le coup de gueule qu'a passé Jean-Luc Reitzer, député LR du Haut-Rhin, lors d'une audition de la Haute Autorité pour la Transparence. On l'écoute, s'il vous plaît.
Moi, je suis un député de base. Hein. Et donc, moi, j'ai le sentiment qu'on a déjà beaucoup de contrôle. Hein. Enfin, moi, je m'en occupe pas, c'est mon épouse qui fait tout. Mais ouais. Je sais que quand elle doit faire sa déclaration de patrimoine, elle passe un mauvais quart d'heure.
Ouais, hein. Passe un mauvais quart d'heure. Moi, je suis comme toi, Jean-Luc. Moi aussi, je suis épuisé par le travail que je ne fais pas. En réalité, vous savez, ils sont bien courageux, les élus comme Jean-Luc Reitzer, parce qu'ils s'en prennent aussi plein la tronche, hein, les députés par l'opinion publique. C'est une vérité. Les députés sont les mal-aimés de la République, et on sait tous où l'absence d'amour peut nous amener à la présentation du 17h17. Pourtant, vous savez, on devrait tous respecter l'institution de l'Assemblée nationale et donc nos députés, parce que ces hommes et ces femmes qui font avancer la France. D'ailleurs, à ce propos, ma maman, vous savez, disait toujours, tu sais, Pablo, l'Assemblée nationale, c'est comme une boîte de chocolat qui traîne à côté de Gérard Larcher. On ne sait jamais sur quoi on... Oh ben non, elle est vide. Vous savez, il y a pas que les députés qui souffrent à l'Assemblée. Il y a aussi les hauts fonctionnaires qui ont une vie à vous faire passer les SDF pour des châtelains. Tenez-vous bien pour leur travail, hein, aux hauts fonctionnaires, hein, qui consiste essentiellement à respirer et puis à dire tiens, encore un bourrage papier. Bon bah dis aux autres que je prends une pause. Eh bien pour ce travail, les hauts fonctionnaires, eh bien ils ne touchent que 6465 euros net par mois pour les agents débutants et jusqu'à 18 736 euros net pour les administrateurs les plus anciens. Franchement, moi, je vous le dis, la dernière fois que j'ai vu un travail de qualité aussi mal payé, c'était il y a une heure quand j'ai signé mon contrat de travail pour cette chronique. Alors, vous me direz, tu exagères, Pablo, tous ces gens sont quand même très bien payés. Ok, mais je veux dire, c'est un métier à risque de travailler à l'Assemblée nationale pour moi. Et je me doute que vous allez trouver ça excessif, hein, j'imagine, Charline. Mais niveau pénibilité, eh bien, ça remplace le travail dans les mines. Bah, parce que oui, parce que quand Jean Lassalle prend les flageolets à la cantine, ça vaut tous les coups de grisou du monde. Oui, le 19e siècle avait son Zola, et bien le 21e devra se contenter de Mira. Pour conclure, le 1er février dernier, l'Assemblée nationale a rejeté la proposition de loi de François Ruffin d'inscrire le burn-out comme maladie liée au travail. Et aujourd'hui, cette même Assemblée nationale se plaint de burn-out. Donc, que les salariés de l'hôpital psychiatrique du Rouvray, qui eux sont en grève de la faim pour dénoncer leurs conditions de travail, se réjouissent. Ils voulaient se faire entendre de nos députés. Et bien, ils vont bientôt en voir arriver 577. D'un coup. Allez, à tous.
Merci Pablo Mira, qui dit toujours des choses contre de l'argent.
Des choses contre de l'argent.
Au sentier idéal. Merci Pablo. Yvan Bourgnon avec nous pour aborder une course célèbre, une course qui célèbre la voile à l'ancienne. C'est un tour du monde sans GPS ni autre ordinateur. Éloge de la lenteur en opposition aux Formule 1 des mers. Départ le 1er juillet depuis les Sables d'Olonne en Vendée. La Golden Globe Race est un hommage à la première course autour du monde à la voile en solitaire organisée en 1968, remporté par Robin Knox Johnson, ce marin qui avait la niaque, rappelez-vous.
Ce qu'on cherche, Nicolas. Mais c'est très simple, Moussaillon. C'est le danger qu'on cherche. Retrouver notre instinct de survie face aux éléments déchaînés. Qu'est-ce? C'est Jonathan, il vient de me chier dessus. C'est un goéland. Bon, cela dit, ce n'est pas une raison pour s'équiper n'importe comment. Hein. On ne prend pas la croisière en solitaire, alors va comme je te pousse.
Benoît Poulvorde, Monsieur Manhattan. C'est un article puisé dans La Croix, une nouvelle fois. Donc
vous avez bien lu La Croix.
J'ai beaucoup lu La Croix aujourd'hui.
Ça, ce petit côté.
Ils aiment la voile, la Croix. Alors, donc voilà pour cette cour qui s'organise. Bah, comme vous faites, vous avez fait vous avec votre catamaran non habitable, c'est-à-dire au sextant, c'est ça. Vous êtes même parti avec des cartes en papier, si j'ai bien lu. Il y a donc de nouveau un amour pour la voile, loin de cette performance supersonique d'ordinateur et de Formule 1 des mers. Vous sentez ce mouvement un peu général dans votre milieu ?
Bah moi, je crois surtout que tes 560 députés, on devrait les mettre chacun sur un bateau, là. C'est quand même 9 mois de mer.
Ouais.
On serait bien peinards pendant 9 mois, là, sans ces députés. Puis je pense que là, pour
et
le
je
coup.
Je pense qu'il voudrait réformer le bateau encore.
Ouais, là, et en revenant, là, je pense qu'il trouverait ça à l'Assemblée vachement facile, en fait. Hein.
D'ailleurs, il y a par exemple, l'article nous raconte, tiens, Kevin, australien, pompier, qui dit de toute façon, ce bateau, c'est ma maison. J'ai vendu la mienne pour participer, alors je ne suis pas vraiment pressé. Quand une course est donc plus lente, on prend son temps, on fait le point sur la carte, on utilise le sextant, etc. Il n'y a pas d'ordinateur. Est-ce que là, l'adversaire, c'est soi-même, pas l'autre?
Ah bah là, on est vraiment dans le défi personnel. Mais ce qui est intéressant dans cette aventure, c'est de montrer que voilà, le Vendée Globe a sa place et tout, mais montrer aujourd'hui que sans toute cette technologie, on est capable de revivre de quelque chose, des moments forts, des moments proches de la nature, des voyages intérieurs, de la méditation. Si on passait 9 mois en mer, c'est quand même pas rien. Même moi, j'irais pas. Mais voilà.
Ah bon, alors là, c'est parce que si même vous y allez pas, je sais pas comment il faut le
j'ai un petit problème avec la longue solitude. Moi, j'ai quand même une famille, des enfants, donc j'ai même quand même.
Aussi,
mais voilà. En tout cas, ils vont vivre quelque chose d'intérieur très très fort. Quoi. Ça, c'est bien que ça existe et voilà, il y a encore moyen de faire vibrer les gens, de faire vibrer soi-même.
Et pour le suspense, Yvan Bourgnon, parce que quand il y a des Formule 1 des mers et que ça peut mettre 17 jours et que voilà, là, ici, ça va faire 9 mois. Est-ce qu'il n'y a finalement pas plus de suspense parce que comme c'est plus long, il peut y avoir des avaries et tout espoir est permis. Celui qui est dernier au bout de 3 mois peut espérer arriver premier ou pas?
Bon, le risque, c'est quand même qu'il y ait des écarts assez vite quand même. Hein. C'est qu'au bout de 2-3 mois, en général, les écarts se creusent. Et puis les bateaux sont quand même assez fiables. Donc c'est des coffres forts en fait. Hein. Donc je pense qu'il y aura peut-être un petit peu de casse, mais quand même les gars vont tenir la route. Il y aura peu d'abandon quand même, peu de casse. Et donc voilà, une fois que les écarts sont faits quand même, ça va être compliqué. Je dis pas qu'il n'y aura pas de suspense, hein, mais effectivement, à partir du moment où il y a une semaine d'écart entre deux bateaux, ça va être vraiment compliqué à résorber. Ouais.
Yvan Bourgnon, tiens, une petite dernière question à ce sujet. Il y a un homme qui entame une traversée à la nage du Pacifique, Tokyo, San Francisco. Il s'appelle Benoît Lecomte. Je pense qu'il a commencé hier matin avec 8 heures de nage par jour. Ça va durer des mois aussi. Vous qui êtes navigateur, faire la traversée Tokyo, San Francisco à la nage.
Moi, j'aime pas l'eau, donc c'est un problème.
C'est résolu.
Je sais pas nager, donc.
Bien sûr, évidemment.
J'ai un peu de mal.
On va passer au sketch, Yvan Bourgnon.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Et ben, vous faites bien d'en avoir parlé, Charline, puisque on va vous donner le rôle, justement, de Monsieur Lecomte qui nage. Et on se dit, mais comment ça marche? Et je pense qu'il doit y avoir 2-3 couillons autour qui le soutiennent. Et
il dort sur un voilier toutes
les nuits. Ce sera Guillaume, Charline et moi-même. Vous êtes dans l'eau, vous nagez. Et nous, bah, on essaye de vous soutenir un petit peu comme on peut.
Allez, tu vas avancer, feignasse!
Glag, glag, glag.
Allez, Manoudou, plus que 1800 km.
J'ai soif.
Mais tu te fous de nous, t'es dans la flotte jusqu'au cou.
Glou, glou, glou.
Ah, je boirais bien une autre caipirina, moi.
Ah, moi aussi, il reste des cacahuètes.
J'ai faim, nom de Dieu.
Il commence à nous emmerder, celui-là. T'as qu'à bouffer du plancton.
Voilà. Au secours, un requin.
Et en plus, le mec est trouillard.
Quelqu'un pourrait me passer la crème solaire dans le dos, là.
Ça cogne, hein, cet après-midi.
Arrête.
Mais de quoi tu te plains, toi? Au moins, t'as une combine néoprène qui te protège du soleil.
Ah, oui. Déconnez pas, il y a une méduse qui m'attaque.
Oh, et on t'a jamais vu Bob l'éponge?
Bob l'éponge, les méduses, il en fait de la confiture, hein.
Pitié, c'est encore loin, San Francisco.
On vient de quitter Tokyo, mon petit bonhomme.
Moi, je trouve ça sympa, cette petite croisière.
Oui. Ouais, c'est toujours mieux qu'une croisière RTL avec Stéphane Bern.
Ouais, ou qu'une croisière de l'Obs avec Jack Lang.
Parlez-moi, je m'ennuie.
Bah, nous, on s'ennuie pas.
Allez, nous, apéro.
Encore.
Allez, tais-toi, il nage un peu, là.
Et les expériences scientifiques, alors?
Quoi, les expériences scientifiques?
Bah oui, on est là pour faire des expériences.
Bah ouais, bah les conclusions, elles sont évidentes.
Ah bon?
Bah oui.
Nager 8000 bornes dans le Pacifique, ça fatigue et puis ça sert à rien.
Voilà.
Ouais, c'est pour alerter la pollution des plastiques.
Ah bon? Bah ils ont bon dos, les plastiques.
Et ton tuba et tes palmes, c'est fait avec quoi?
Voilà.
Glou, glou, glou.
Ouais, bah c'est ça, glou, glou, glou.
Ça fait tellement de bien, les vacances sur un voilier, moi j'aime bien.
Heureusement qu'on n'est pas parti avec Yvan Bourgnon.
Ah non, tu m'étonnes.
La prochaine fois, je fais Nice-Monte-Carlo. Hein.
J'ai une petite question. Est-ce que vous êtes sûr que Tokyo-San Francisco, c'est 8800 km, vous l'avez fait exprès pour moi.
Quoi?
C'est 1808.
C'était 7900, mais j'ai arrondi.
Ouais, d'accord, c'est ça. En tout cas, ce Benoît Lecomte qu'on va suivre dans son périple pendant plusieurs mois. Non, mais il alerte aussi, afin d'alerte pour les plastiques dans les océans, bien sûr. Comme...
J'espère qu'il ne va pas bouffer trop de plastique. Hein, parce que,
bon, il a un tuba, donc ça va. Yvan Bourgnon, donc, je rappelle. D'abord, votre ouvrage « Conquérant des glaces », votre parcours de l'Alaska au Groenland à la voile en solitaire sur votre petit catamaran non habitable où vous dormiez sur le flotteur. C'est paru chez Artaud. Et puis, je rappelle aussi votre ONG de Sea Cleaners. Et vous pouvez aller voir, bien sûr, le site internet seacleaners.org. Donc.
Et dans quelques jours, le record de la traversée de la Méditerranée avec mon fils Mathis.
Ah oui ?
Voilà, une première entre père et fils. Donc, on est en stand-by à Marseille dans quelques jours.
Très bien. Il n'arrête jamais. Mais c'est Yvan Bourgnon. Merci beaucoup, on va se retrouver demain avec Florence Sestac. Merci aussi à Mélanie Bauer et à Pablo Mira. Et voici le mot de la fin qu'on laisse à Fabienne Synthèse car elle se prépare pour la traversée du 18-20.
Arrêt à l'abordage, papa. Souquez les artémuses.
Ça veut rien dire, souquez les artémuses.